Bonjour, bienvenue, c'est le meilleur de la bande originale avec Leila Kadrboudadi, Daniel Morin, Albert Algo, Alison Wheeler, l'humeur de Guillermo Guiz. Et au programme aujourd'hui, Agnès Jaoui avec Léa Drucker, la bande originale d'Alain Souchon et Laurent Voulzy. Et en live, Trio et la famille Souchon, c'est le meilleur de la bande originale, c'est maintenant. Le retour, et elle nous l'avait annoncé à ce micro d'ailleurs, le retour à la fois d'un air de famille de Cuisine et Dépendance. D'ailleurs, je pense que la chronologie voudrait que je dise l'inverse, Cuisine et Dépendance et un air de famille. La première à avoir été écrite et jouée, c'était Cuisine et Dépendance. Ensuite, un air de famille, tout ça se passera au théâtre de la Porte Saint-Martin. Et Maréchal, ouais. Avez-vous compris pourquoi Léa et Agnès sont nos invités?
Je suis un peu enrhumé, alors de temps en temps j'ai des absences. Oui, parfaitement naquis. Tout d'abord parce que ce sont deux personnes tout aussi sympathiques que remarquables, dont les personnalités tranchent par leur originalité, avec la fadeur de ceux qui vous servent de collaborateurs autour de cette table. Et Dieu sait si la collaboration, c'est mon kiff, comme disent les jeunes illustrés qui vous aiment, mon
illustré.
Cher
naquis.
Illustrés, oui, c'est un nouveau mot. Je viens de le forger à l'instant. Oui, un nouveau vocable. Comme disait Mallarmé. Et puis, nous avons la chance de les recevoir parce qu'elles viennent nous présenter Cuisine et Dépendance et Un air de famille, deux comédies mythiques créées dans les années 90 puis adaptées au cinéma qui seront jouées à nouveau, mais en alternance, au théâtre de la Porte Saint-Martin. Voilà pour l'information.
Ça va, Maréchal?
Ça va, je tiens le coup jusqu'à là, j'ai peut-être crevé en direct.
Ouais, ouais.
Ça sera mon heure de gloire. J'aurai eu au moins celle-là dans ma vie. Maintenant, comme l'exige ma fonction dans cette émission qui ressemble plus à une maison de plaisir de Saigon qu'à une réunion éditoriale, voici le pchit de Cuisine et Dépendance.
Le résumé, si vous
voulez. Oui, le résumé, si vous voulez. Foutez-moi la paix. Ouais. Jacques et Martine, un couple de bourgeois ordinaires, invitent à dîner deux amis perdus de vue depuis 10 ans. Un écrivain à succès et sa femme entièrement dévolue à sa carrière. Parmi les invités figurent aussi Georges, le copain, hébergé, et Fred, le frère de Martine, avec sa copine Marilyn, qu'on ne voit jamais. Vous me suivez jusque-là, c'est
ouais,
clair.
Ouais, ouais.
Ces personnages se dévoilent petit à petit dans la cuisine où leurs névroses respectives apparaissent. Une comédie jubilatoire pour ces 5 personnages hauts en couleur. Là, moi j'avoue, j'ai tout pompé dans le dossier de presse, qui est très bien fait, car l'esprit de cette pièce étant aussi subtil que complexe, je me suis dit que ce serait la meilleure façon de ne point trahir les intentions de l'auteur que vous êtes, Agnès. Bonjour, des intentions qui restent les mêmes aujourd'hui, bien qu'elles soient incarnées de façon aussi nouvelle qu'excellente, notamment par Léa Drucker. Bonjour,
bonjour.
Un avis que Nagui, vous ne sembliez pas partager avant l'émission. Alors que j'étais surexcité à l'idée d'aller vous applaudir, mesdames, vous employâtes, Nagui, à briser mon enthousiasme en me disant « Oh, vous savez, Maréchal, Cuisine et Dépendance, au sens propre comme au sens figuré, c'est un titre qui sent le réchauffé. Pareil pour un air de famille. Bon, je comprends que de temps en temps, des auteurs aient une panne d'inspiration. Mais là, quand même, en un quart de siècle, pas être foutu de pondre un truc nouveau, il n'y a quand même pas de quoi plastronner. »
Quel salaud.
Oui, voilà ce que m'a dit Nagui, mesdames. Pour ma part, j'ai moi aussi des souvenirs cuisants liés à une cuisine et dépendance. Pour être précis.
Le pressing. La cuisine roulante. Mélange de pressing et de pressing.
Pour le Costa. La cuisine roulante du 4e RTT, régiment de tirailleurs tonkinois, où mon cuistot, ding, 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 nous préparait des nems au pruneau. C'était en 1954 au Tonkin.
Hélas,
je n'aurais pas le temps de vous raconter comment l'explosion des plaques chauffantes sabotées par ce trait de faux à micro-ongles qui était un agent viette alors que j'étais assis dessus, les plaques par la viette, quoi que ça me fait arriver, m'a horriblement mutilé le fondement, d'où les difficultés que j'ai depuis à rester assis plus longtemps que le temps de cette introduction lamentable. Je vous souhaite donc une bonne émission.
Merci.
La bande originale, le meilleur moment sur France Inter.
C'était Maréchal Langue de Butte, donc qui a évidemment rapporté des propos que je n'ai jamais tenus, comme d'habitude. Cuisine et Dépendance, c'est un
infamie. T'as pas dit que c'était de réchauffer?
Au contraire, et j'ai même pris plaisir à les relire, parce que évidemment, dans un premier temps, on se dit on va recevoir Agnès et Léa, on les connaît, on va la soir pour deux pièces de théâtre, on les connaît. Eh ben de les relire ces pièces, mais de les relire comme d'abord déjà comme des textes, et pas spécialement avec le jeu, la mise en scène, l'incarnation de cette nouvelle génération dont vous nous avez parlé la dernière fois, Agnès. Ça redonne la dimension de l'écriture. Rien n'a changé, aucune vanne, pas un mot n'a changé entre l'écriture faite et celle qui sera jouée à partir de d'après-demain.
3 mots peut-être.
Parce qu'il fallait quoi? Densifier?
Non, parce qu'on a eu envie
non,
c'est la vanne ne marchait plus, c'est quoi?
Non, non, c'est plutôt on en a rajouté une ou deux ici ou là, parce que ça nous donnait envie.
D'accord, ouais, très bien. Nous, c'est Jean-Pierre Bacri et vous, les deux auteurs de ces deux pièces qui vont être jouées en alternance. Alors là, qu'est-ce qui se passe dans la tête d'une comédienne qui se retrouve, comme vous, Léa Drucker, à jouer deux personnages avec à peu près la même troupe, hein. Il y a Catherine et Jérémy simplement. Oui, il y a juste Catherine qui est là.
Voilà. Avec, qui est sur un air de famille.
Et pas sur Cuisine et Dépendance, mais sinon c'est la même troupe.
C'est exactement la même troupe. On a,
ceci étant, elle y est aussi sur, puisqu'elle met en scène, donc elle est des deux côtés.
Catherine?
Ouais, elle met pas du tout en scène?
Pas du tout, c'est Agnès qui met en scène.
Elle a mis en scène
Agnès,
femmes savantes.
Elle fait les mises en scène. Ah non, Catherine, elle a
l'excellent femme savante qui était déjà dans ce même théâtre récemment, qui était très très bon.
Mais c'est vrai qu'on est tous un peu dans le. Enfin voilà, c'est dans ce théâtre de la Porte-Saint-Martin où tout se passe en ce moment.
Et alors, comment cloisonner justement les textes, les rôles, le jeu, les indications? C'est un exercice, non?
Oui, alors c'est curieux parce qu'en fait, je sais pas comment Agnès nous a permis de faire ce travail, mais quand on est dans un air de famille, on est complètement dans un air de famille, et quand on est dans Cuisine des Dépendances, on est complètement dedans. C'est-à-dire, j'ai jamais la sensation de me dire, oh là là, faut faire un virage à 180 degrés.
Sauf que vous avez appris deux textes pour le jouer
voilà,
en alternance.
Donc ça, au niveau de la densité, du travail de mémoire, oui, c'était un peu fatigant, ça. C'est très excitant, c'est vertigineux aussi. Parce que pour chacun, ce qui est très excitant, c'est qu'on a des personnages qui ont une caractérisation très très différente, même si c'est quand même votre langage, enfin votre écrit, c'est le même style d'écriture et quand même, il y a des thèmes qui se retrouvent un peu dans les deux pièces, même si c'est pas du tout les mêmes histoires, mais il y a des choses sur les rêves qu'on n'a pas réussi à accomplir, il y a plein de choses des thèmes très universels dans les deux pièces.
Les secrets qui doivent finir par sortir, les tensions entre les personnages, les non-dits.
Oui, et puis les rôles les cases dans lesquelles on peut se mettre parfois dans la vie de famille, chacun se met dans une case et comment, évidemment, dans chaque pièce, il se passe un événement exceptionnel qui fait voler en éclats un peu tous les schémas dans lesquels ces personnages se sont installés et cloisonnés. Et c'est très beau d'ailleurs, moi je trouve ça très touchant dans ces deux pièces, c'est qu'on a chacun un parcours très très fort. Alors c'est de la comédie, mais à jouer c'est aussi...
Ça doit être un bonheur,
c'est assez bouleversant en même temps.
Qu'est-ce que c'est bien écrit?
C'est très bien écrit, très solide. Déjà pour ça, c'est très très solide.
C'est dingue, c'est extrêmement bien écrit. Et il y a ce plaisir à redécouvrir le texte, enfin qu'on a eu nous à
relire.
Moi, je me suis plongé dedans.
Mais je crois aussi que c'est parce que Agnès
est... C'est culte en plus.
Oui, mais Agnès et Jean-Pierre Bacri, ce sont des acteurs aussi, donc ils écrivent, c'est des auteurs-acteurs. Donc pour les acteurs, c'est un peu un luxe, quoi.
Et puis il y a aussi l'entrée, c'est une nouvelle génération aussi. Il y a l'entrée donc de Léa Drucker et de Grégory Gadebois notamment. Alors j'imagine que tout d'un coup
Laurent Capelluto, Jean-Baptiste Marsenac
et Nina Meurice. Et Nina Meurice pour redonner un nouveau souffle aussi à ces textes-là qui n'ont pas vieilli. Il fallait choisir de nouveaux comédiens et ça, j'imagine, se créer une nouvelle bande. Et ça, Agnès Jaoui, c'est angoissant. On s'y prend comment? On se dit tiens, il faut faire vraiment des grands choix puisque les personnages interprétés jadis par Léa, eh ben on les identifie très bien par les films notamment. Donc comment est-ce que vous avez pu vous y prendre? C'est des coups de cœur.
C'est des coups de cœur. J'aime énormément les acteurs et j'aime encore plus peut-être les acteurs de théâtre. Alors c'est vrai que ça fait longtemps que j'ai vu Léa au théâtre et que elle m'a épatée. Qu'elle m'a donné envie même d'écrire pour elle, enfin de pareil pour Gadebois, pareil pour Marsenac et Nina, j'ai déjà travaillé avec elle et Capelluto aussi. Et c'est des gens où et d'ailleurs s'il y a une chose dont je suis certaine, c'est qu'ils sont merveilleux chacun dans leur rôle et que je me suis pas trompée pour ça et ça c'est capital évidemment. Déjà dans un film ça l'est, mais alors au théâtre n'en parlons pas.
Et vous saviez dès le début qui allait être qui?
Je savais
la distribution.
À partir du moment où j'ai commencé à avoir ce projet, j'ai commencé à penser aux acteurs et ils se sont vite imposés à moi. Enfin oui, je dois dire même que Grégory, quand je l'ai vu au théâtre, je me suis dit ah voilà quelqu'un qui pourrait reprendre les rôles de Jean-Pierre. Enfin, Il a un charisme, une densité, une drôle. Enfin bon, voilà.
Une bonne humeur quotidienne.
Non, mais non, pour ça, il ressemble tellement d'ailleurs. Mais bon, je sais pas, il y avait quelque chose qui me paraissait.
Évident.
Oui, ouais. et puis Léa, et puis Nina, et puis Jean-Baptiste. Enfin voilà, tout. Après, c'est venu. Bon, avec
et la en même réflexion. Temps, et, ouais, et en même temps, il fallait pas que ce soit aussi des mini-mi, quoi. Il fallait pas que ce soit des mini Jaoui, des mini Bakri qui jouent à faire comme les grands avaient fait 20 ans avant.
Bien sûr que non, c'est un peu l'écueil. J'avoue que j'ai eu peur souvent de leur demander la musique exacte que j'avais en tête, parce que je l'ai joué 400 fois, enfin les deux, donc forcément c'est très précis. Et je pense que eux aussi m'ont dit que même en lisant ils avaient les intonations des acteurs.
La musique du jeu, parce que vous aviez vu la pièce vous les aviez vues.
Les pièces non, mais les films oui.
Les films oui.
Ouais, ouais, ouais. Les films et les musiques des acteurs, on les a tous dans la tête.
Et c'est vrai que cette musique là en lisant, on est tenté, tant qu'on vous a pas encore vu là sur scène, on est tenté d'entendre la voix d'Agnès Jaoui, la voix de Jean-Pierre Bacri, parce que en plus vous avez une musicalité qui est bien à vous.
On revoit. C'est parce que c'est culte. Alors ça, c'est un poids que vous avez envisagé quand vous avez entendu le projet. Comment ça s'est passé d'ailleurs? Agnès, vous appelez, vous êtes vu, vous avez pris un pot.
L'excitation du projet dans un premier temps, et ensuite, ouais. Et bien sûr, la trouille, ça c'est normal. Et puis, effectivement, cet écueil-là, enfin de se dire mais comment on arrive derrière Zabou, comment on arrive derrière Catherine Froh. Et en fait, c'est des questions qui... en répétition, je me suis dit, en fait, ça me concerne plus. C'est-à-dire que mon travail, mon enjeu, c'est d'être le plus vrai possible, d'incarner ce personnage de la façon la plus honnête possible. Et du coup, cette comparaison-là, elle me concerne plus. C'est-à-dire que si elle doit se faire, eh ben, elle
donc
se fera.
Finalement, c'est comme n'importe quelle pièce, entre guillemets, classique. S'il y a eu un grand Cyrano, ça veut pas dire qu'on pourra plus jamais le jouer.
Exactement. Oui, c'est des pièces classiques. Je pense qu'elles sont suffisamment bien écrites pour qu'il y ait plein d'interprétations possibles et différentes, et que c'est ça qui est intéressant avec le théâtre aussi.
Est-ce que justement vous pouvez, dans le travail avec Agnès Jaoui, c'est délicat devant elle de répondre à cette question, mais essayons quand même.
Reboucher les oreilles.
Rajouter une touche personnelle, suggérer quelque chose, si ce n'est dans la mise en scène, au moins dans l'intention, dans le.
Dans le texte, non.
Non, je parle pas dans le texte.
Dans la mise en scène, non plus. Dans les directions. De toute façon, on propose des choses. Alors, bien sûr, on se prend un peu des murs. On essaie au début. On est dans la musique, en effet, des interprètes qui avaient joué ça. Puis Agnès nous demander de nous le réapproprier très justement, et puis mais ça sert à ça, les répétitions, à essayer plein de choses, à essayer des choses qui sont parfois grossières, et pour arriver à un travail qui nous convient à tous. Parce que c'est un travail collectif, et surtout ces pièces-là, c'est vraiment un travail collectif, c'est-à-dire qu'on dépend tous les uns des autres. S'il y en a un qui est... C'est ça que moi j'adore, parce que ces derniers temps, je faisais plutôt des pièces où on n'était pas très nombreux sur scène. Et là, il y a une vraie jubilation
et
à être ensemble là-dedans.
On avait souvent parlé ici avec un grand bonheur, parce qu'on vous aime toutes les deux et on a hâte de découvrir en trois dimensions,
vraiment.
Cuisine et dépendance et un air de famille, en alternance à partir du 14 janvier, l'alternance faisant que vous commencez par...
Un air de famille.
Étonnamment, alors que c'était pas la première.
Oui, je sais pas du tout comment ça s'est trouvé comme ça.
Vous avez fait un plouf-plouf, vous avez fait comment?
Je ne sais pas du tout. Enfin, c'est pas moi qui ai décidé, en fait. On commence par les deux, puisque le samedi, les deux sont joués. Tous les samedis, les deux sont joués.
Parce que matinée, soirée.
Voilà.
D'accord. Donc ça démarra par matinée, le samedi, un air de famille, soirée, cuisine et dépendance, ou je me trompe?
Non, le contraire, justement.
Le contraire. On cuisine et dépendance après-midi,
un air de famille, après c'est pouf toute la semaine, après un air de famille l'après-midi, cuisine et dépendance le soir, et pouf toute la semaine.
On peut enchaîner, par exemple, les deux pièces.
Absolument.
Dans la même journée.
Ben oui, on peut faire une sortie, on se dit, tiens, on va voir deux
Mais moi, je regarde à nouveau Léa avec beaucoup d'admiration, parce que... Sincèrement,
mais je suis d'accord.
C'est un boulot de dingue.
Ouais.
Dans la même journée, jouer deux pièces différentes, deux personnages, sans se planter dans les intentions, le texte, un travail de mémoire, de jeu, d'interprétation, enfin... Voilà. Mais en même temps, Agnès a choisi un très bon et un très beau casting. Ça sera au Théâtre de la Porte Saint-Martin. Quand on vous a annoncé la venue de Léa Drucker et d'Agnès Jaoui, vos oreilles ont sifflé.
Et oui, immédiatement, quand je pense à vous, Agnès, bon, je pense à beaucoup de choses, vraiment. Mais il fallait que je fasse un choix. Alors j'ai pensé à un film que j'aime beaucoup, un film pour lequel vous avez été récompensé. On connaît la chanson d'Alain René.
Elle fout toute sa vie en l'air, mais toute sa vie, c'est pas grand-chose.
C'est la bande-annonce.
Qu'est-ce qu'elle aurait bien pu faire par rêver seule dans son lit le soir entre ses draps roses.
Voilà, c'est dans la bande-annonce, une bande-annonce que vous avez réalisée. Mmh. Et je trouve que là, vous avez créé quelque chose de très très fort avec cette bande-annonce. Ouais. On en parle souvent d'ailleurs.
Hein, non, j'adore ça. J'adore, mais c'est un pur concept. Mais pourquoi vous faites pas un film entier comme ça?
Je sais pas si ça tiendrait un film entier.
Surtout que c'est déjà écrit, donc.
Et de couture.
Je sais pas si.
C'est tellement drôle. Oui, tellement fort, tellement drôle.
Alors pourquoi ce film? Parce que en effet, vous avez été récompensé, vous avez signé avec Jean-Pierre Bacri le scénario, et que finalement, je voulais aborder avec vous le travail que vous avez pu mener avec Alain René, qui avait un peu un rapport à ses personnages, comme Balzac pouvait l'avoir avec ses personnages. Dans ses livres, à savoir créer une fiche un peu détaillée, comme avec ce principe de la littérature réaliste, et de considérer, voilà, il vient d'où, quelle est sa profession, quelle est sa maladie, et quand bien même ces éléments-là ne figureraient pas dans le film, il vous a demandé de faire ce travail, je crois.
Oui, il nous a demandé une fiche pour tous les personnages, y compris les plus petits rôles. Effectivement, la profession des parents, les maladies s'il y en avait eu, tous les détails qui pouvaient aider un acteur à s'approprier le personnage. Et j'ai adoré ça, et on a adoré ça, et c'est ce qu'on fait de toute façon, c'est d'essayer d'être le plus précis et psychologiquement et socio-professionnellement, parce que c'est importantissime.
Est-ce que c'est ce qui se fait quand on fait une, ce qu'on appelle une bible d'un feuilleton ou d'une série? Je vous regarde toutes les deux, je ne sais pas. Est-ce que Léa, vous avez déjà joué dans des séries à la télé? Est-ce qu'il y a des fiches comme ça faites pour dire elle mange ça, elle se lève comme ci, elle se lève comme ça, elle s'habille de telle manière, elle écoute tel genre de musique, même si c'est pas dans le feuilleton.
Non, il peut y avoir un travail très détaillé sur chaque personnage.
Sur le caractère.
Oui, absolument.
Mais là, c'était vraiment une méthode, je crois, de travail d'Alain René. Il voulait avoir cette continuité là avec ses personnages. Alors, on connaît la chanson, ça a été le plus gros succès public d'Alain René. Je crois qu'il y a eu plus de quasiment 3 millions d'entrées pour ce film.
Je me souviens plus.
Les chiffres, voilà, c'est quand ça devient si colossal, non, je pense que voilà, on n'y fait pas très attention. Et là, il fallait choisir dans ce film aussi des chansons qui appartiennent à la mémoire collective, à l'inconscient collectif. Mmh. Et là, ça doit être une tâche assez ardue.
Oui, enfin, ce qui est ardu, c'est que d'abord, 99,9% des chansons parlent d'amour et d'amour malheureuse, donc des fois, on voulait exprimer d'autres thèmes, ça serait peut-être un problème pour faire un long métrage, et il y avait beaucoup moins de choix. L'autre difficulté,
c'est... Il y a ma liberté de penser sur les impôts,
bizarrement, je la prendrais pas, mais à part ça, ce qui était difficile, c'est que la mémoire de René n'était pas la nôtre. Oui. Des fois, il y avait il disait bon, il est connu Michel Jonas ou je sais pas, n'importe quoi. Enfin, il y avait des gens qui connaissaient pas et vice versa, il y avait des chanteurs qui l'aimaient
et
qu'on connaissait moins.
Voilà. Incompris en termes de génération, c'est tout.
Mais autrement, c'était un grand plaisir, c'était un immense bonheur de toute cette aventure.
On poursuit à présent avec vous, Léa, quand je pense à vous. Là aussi, je pense à beaucoup de choses, parce que je crois que je vous ai vu au théâtre sur les 10 dernières années, quasiment pour toutes les pièces que vous avez jouées.
Non, c'est moi.
Je vous remercie.
Non, c'est pas toi, c'est moi.
Non, écoute, on partage si tu veux.
Non, moi j'y étais.
T'étais au Pinter.
Ouais.
Au Tête Marigny.
Absolument.
Oh là là, on va se refaire toute une liste, en fait.
Et je suis pratiquement sûr d'avoir vu toutes les pièces avec Léa Drucker.
On continue?
Ouais, je sais pas. Eh bien, juste, il fallait donc choisir, là encore, dans toute votre carrière. Et j'ai choisi la télévision, j'ai choisi le Bureau des légendes.
Voilà, le service des clandestins, le Bureau des légendes.
Bienvenue dans le Bureau des légendes.
Vous avez passé 6 ans à Damas, c'est ça? Sous couverture lourde, comme on dit.
Le plus secret des services secrets.
Et pendant aussi longtemps, j'imagine qu'on se fait des amis, non? Et qu'est-ce que deviennent ces amis?
On les quitte.
Jusqu'où un agent peut-il aller pour l'amour d'une femme?
Pourquoi tu m'interroges comme si tu étais un policier?
On vous a vu donc dans le Bureau des légendes, dans un rôle incroyable. Je crois que Daniel est assez fan de la série.
Fantastique cette série. L'intro est tournée?
Elle est
justement
en train de se tourner. Presque terminée. Enfin, il y a encore un petit peu de tournage, ouais.
Et vous, en termes de personnage, l'évolution de votre personnage, ça donne quoi? Est-ce qu'on peut en dire un peu quelque chose?
Et non, rien.
Et non. j'ai essayé et quand
c'est
même.
C'est strictement confidentiel. Et puis en plus, c'est le bureau des légendes.
C'est oui, c'est vrai. Il y a le mystère entoure ce bureau des légendes. Donc moi, c'est une série aussi que j'ai beaucoup aimée. J'ai aimé vous découvrir. On vous a vu dans beaucoup de téléfilms que je trouve toujours de très bonne qualité, parce que je crois que votre jeu y est pour beaucoup. Est-ce qu'il y a d'autres envies en télévision? Tout à l'heure, Agnès disait qu'elle avait choisi des comédiens de théâtre, et je crois que dans sa bouche, ça a un sens bien particulier en termes de qualité et d'engagement. La carrière qui s'oriente plus vers la télévision et le cinéma, c'est quelque chose qui vous fait moins envie que le théâtre?
Ah non, je trouve que tout ça est très complémentaire, en fait, et ça dépend vraiment des gens, des rencontres, des acteurs avec qui on a envie de travailler, des projets, des metteurs en scène, des scénarios, mais pour moi, tout est complémentaire. J'ai pas d'a priori. Ouais. Et puis bon, encore une fois, j'adore tourner. Mais voilà, j'aime bien avoir de la matière. Ça veut pas forcément dire avoir le premier rôle, mais avoir de la matière, des personnages denses et complexes.
Et le théâtre, c'est plus.
Il y a très beaux personnages au théâtre. Ouais. Ça, c'est sûr qu'on a, on a de quoi faire. On a de quoi faire.
C'est difficile, j'imagine, aussi de gérer toute l'activité que vous avez au théâtre et d'avoir assez de temps à côté pour s'investir ailleurs. Je vous vois tellement magique sur scène et je vous adore aussi à la télévision et j'ai l'impression comme ça qu'il y a un rapport à la scène chez vous qui est beaucoup plus important que la moyenne.
Je me rends pas bien compte. Le théâtre, en fait, disons que j'ai eu vraiment des belles rencontres au théâtre et ça m'a permis de tourner, en fait. C'est-à-dire qu'à une période où je travaillais très peu quand j'étais plus jeune, pendant 10 ans, c'était un peu dur. Le théâtre m'a permis de m'inscrire quelque part et de rencontrer des gens et d'exprimer quelque chose. Si j'avais fait que des castings de cinéma, de télé, je suis pas sûre qu'on aurait vu ça chez moi. Et le théâtre me permettait tout d'un coup de vraiment montrer le cœur de ce que j'avais envie de... Oui, tout ce que j'avais envie de faire. Et puis là, parfois la démesure. Et bon, c'est toujours... le cinéma, pour ça, c'est délicat. C'est que, surtout quand vous êtes plus jeune, on a envie que ce soit de vous mettre un peu dans une petite case. Est-ce que vous êtes la jeune fille en fleurs? Ben moi, j'étais pas du tout ça. Est-ce que j'arrivais pas à exister quelque chose, à exister là-dedans? Donc en fait, c'est par le théâtre que j'ai petit à petit pu faire des rencontres et tourner et faire des choses de plus en plus intéressantes.
C'est plus facile d'être bonne comédienne au cinéma qu'au théâtre. Le théâtre, c'est sans filet, on ne trompe pas, on est forcément...
Non, je trouve que les deux sont difficiles. Je veux dire, les deux, c'est les mêmes enjeux, c'est les mêmes, c'est la même source c'est le même travail. C'est juste que la technique n'est pas la même au théâtre. Déjà, il faut qu'on parle plus fort.
Oui, enfin, on peut prendre quelqu'un dans la rue et en faire une star. Enfin, il peut y avoir une rencontre et...
Au cinéma, mais pas au théâtre.
Au cinéma, mais voilà.
C'est ça.
C'est con.
Tu l'as vu par exemple dans pour continuer le match pour savoir si tu l'as vu dans Plaidoyer pour un boxeur par exemple.
Alors ça vous m'étonnez là.
Non mais je l'ai pas vu.
Ah bah lui non plus.
Allez, moi non plus.
France Inter, la bande originale, le best of. Avec Nagui.
Bambino par trio, ça va.
Avec Richard Lornac au piano. Bon, on a bien vous pour les cœurs. Est-ce que vous êtes prêts pour les cœurs ou quoi? Autour de la table, on chante.
Ouais. Okay.
Les yeux battus, la mine triste et les joues blêmes. Tu ne dors plus, tu n'es que l'ombre de toi-même. Seul dans la rue, tu rôdes comme une âme en peine. Et tous les soirs, sous sa fenêtre, on te voit. Je sais bien que tu l'adores,
Bambino, Bambino.
Et qu'elle a de jolis yeux,
Bambino, Bambino.
Mais tu es trop jeune encore,
Bambino, Bambino.
Pour jouer les amoureux,
Bambino.
Et gratte, gratte sur ta mandoline, mon petit Bambino. Ta musique est plus jolie que tout le ciel de l'Italie. De ta voix câline, mon petit Bambino. Tu peux chanter tant que tu veux, elle ne te prend pas au sérieux. Avec tes cheveux si blonds,
Bambino, Bambino.
Tu as l'air d'un chérubin,
Bambino, Bambino.
Il va plutôt jouer au ballon,
Bambino, Bambino.
Comme font tous les gamins,
Bambino, Bambino.
Tu peux fumer comme un monsieur des cigarettes. te déhancher sur le trottoir quand tu m'inquiètes. Tu peux pencher sur ton oreille ta casquette. Ce n'est pas ça qui dans ton cœur te fiera. L'amour et la jalousie,
Bambino, Bambino,
ne sont pas des jeux d'enfants,
Bambino, Bambino.
Et tu as toute la vie,
Bambino, Bambino,
pour souffrir comme le grand,
Bambino.
Et gratte, gratte sur ta mandoline, mon petit Bambino. Ta musique est plus jolie que tout le ciel de l'Italie. Et canta, canta de ta voix câline, mon petit Bambino. Tu peux chanter tant que tu veux, elle ne te prend pas au sérieux. Si tu as trop de tourments,
Bambino, Bambino,
ne les garde pas pour toi,
Bambino, Bambino,
va le dire à ta maman,
Bambino, Bambino.
Les mamans c'est fait pour ça. Elle a blotti dans l'ombre douce de ses bras. Pleure un bon coup et ton chagrin s'envolera. Si tu as trop de tourments,
Bambino, Bambino,
ne les garde pas pour toi,
Bambino, Bambino,
on va le dire à ton maman,
Bambino, Bambino,
le maman s'est fait pour ça.
Bien. Bravo. Bravo.
La bande originale, le best-of sur France Inter.
Voici l'humeur et la bonne humeur, j'espère, de Guillermo Guiz. Bonjour les amis.
Non.
Salut.
Bonjour.
Vous êtes dégueulasse.
Bonjour
Daniel.
C'est un petit bonjour.
Ouais, ta gueule.
Oh là. Vous connaissez Daniel quand même. Vous n'aurez pas ma confiance en l'homme Daniel Morin. On en a connu des méchants, des abjects. Bon, jamais aussi zélé que vous évidemment. Ça y en a trois par génération. Les deux premiers sont en fleurimorgis. Mais voilà, on n'a connu pas vrai maréchal.
Affirmatif.
Ouais, d'accord. Alors vous ne gâcherez pas mon moment avec deux chanteurs pour qui j'ai la plus haute admiration. Vraiment, Laurent Voulzy et Alain Souchon, corps antenne. Daniel, vous avez, je le précise, vous avez rebaptisé Laurent Voulzon et Alain Souchy, plongeant dans la gêne et dans l'embarras toute l'équipe technique de la bande originale, pourtant rompue à l'humour si particulièrement laborieux de Nagui. Cela dit, vous ne gâcherez pas mon moment, parce que j'ai le cœur serré et les souvenirs qui défilent. Vous savez, Alain, particulièrement, je suis assez ému de vous rencontrer. Mon papa, mon papa aimait vraiment beaucoup votre univers et il était très très fan de vous. Alors qu'aujourd'hui plus du tout, curieusement il préférait.
Parce que l'été, j'ai peur que ton papa soit plus là, non.
Comme quoi, là, la pollution, les gens changent, vous savez. Bon, voilà, apparemment, ça fait chier tout le monde dans son hospice, mais je m'en branle, je vais jamais lui rendre visite. Il a qu'à crever en écoutant Nuit Magique, hein.
Non.
Chacun ses problèmes.
Non.
Je subis déjà le racisme anti-humour raffiné dans cette émission. Si en plus je dois aller changer les couches des gens, hein, autant carrément faire une croix sur le bonheur, quoi. Et devenir best friend for life avec François Fillon. Mais non, y a pas de raison, quoi. Mais non. Non, c'était du lolage. Vous qui me prenez déjà pour un petit neveu blanchâtre et dégoûtant de Daniel Morin, je vous rassure, mon père est vraiment mort. Et sans un disque de Catherine Lara. L'honneur est sauf, évidemment. Il vous a adoré tous les deux jusqu'au bout, je dois le dire, vraiment. En vrai, j'ai passé mon adolescence et mon enfance, surtout.
Tu veux qu'on rigole avec tout ça.
Hein.
Vous êtes un cinglé. Hein.
Écoutez, j'ai passé mon enfance. J'ai passé vraiment. Non, mais c'est vrai, écoutez, j'ai passé mon enfance.
Non, en même temps, ça fait plaisir que vous aimiez bien nos chansons.
C'est vrai, j'ai passé
toute
mon enfance.
L'histoire avec votre père est un tout petit peu.
Oui, non, c'est vrai. Mais moi aussi, c'est quelque chose de très, très, très important.
Bien sûr. Voilà.
S'il revient, il va être furieux.
En vrai, j'ai passé mon enfance à écouter vos chansons à la maison. Je me revois encore à 8 ans écouter l'ultra-moderne Solitude, un verre de Glenfiddich dans une main, une plaquette de Prozac dans l'autre, à me regarder 2 heures dans le miroir en me demandant pourquoi ces rivières sous les joues qui coulent. L'innocence, quoi. J'étais un peu en avance à un niveau maturité. Moi, j'ai fait mon premier cancer de la prostate à 14 ans. À 16, je sentais déjà le renfermer. J'ai grandi trop vite. Comme ça laisse des traces. Blague à part, à l'époque où mes potes écoutaient Doc Eddie Fool, Patrick Bruel, les New Kids on the Block, moi, j'écoutais Souchon, Voulzy, Renaud, Les Jours Heureux, Brel, Brassens, Ferré, Les Jours d'Automne, Cordy, Zaraï, Le Normand, quand j'avais un mauvais bulletin. C'est vrai, c'était pas facile tous les jours. Quand je rentrais 5 et 7 sur 10, c'était Il parle aux oiseaux. Quand j'avais pas la moyenne, c'était carrément sans chemise, sans pantalon. Moi, j'ai tout fait pour réussir à l'école, évidemment, forcément, faut comprendre. J'étais pas un enfant comme les autres. Pour avoir un semblant de vie sociale, j'étais obligé de traîner avec les plus âgés que moi, quoi. Clairement, la pédophilie, c'était pas de gaieté de cœur, vous savez. C'était juste une manière de me faire des copains. C'est vrai, dans un pays en plus où c'était légal si ça restait discret.
Oui. Logique, oui.
Ah oui, c'est vrai. Aussi loin que je m'en souvienne, j'ai toujours traîné avec des gens plus vieux que moi. Je pensais que ça s'arrangerait en grandissant. Mais regardez où j'en suis aujourd'hui. Pareil, une tablette gravataire. Comme quoi, on guérit jamais de son enfance. C'est vrai.
Heureusement, ah, que... Heureusement que Leïla est là. Elle est là, c'est je ne sais quoi que d'autres n'ont pas. Vous voyez même les références. Qui est l'organe qui décline. Déjà quand j'étais petit, j'étais vieux. Vraiment, à l'école, j'étais une bête de foire. Je vous promets, c'était en 88. Je faisais du prosélytisme pour que ma classe vote Mitterrand. En clamant à qui voulait l'entendre que s'il était élu, Chirac, il boufferait des enfants. Parce que c'était ça que les gens de droite font. Ils bouffent des enfants. C'est pas du bourrage de crâne, ça. Et mon père, il avait une secte. J'étais son seul adepte. Vraiment, vous vous rendez compte? J'avais 6 ans. J'essayais de convaincre d'autres enfants de 6 ans d'aller dans le pays d'à côté pour faire barrage à la droite. En général, quand tu commences comme ça, soit tu deviens Arlette Laguiller, soit tu deviens Guy Georges. Mais t'es rarement la personne. La personne la plus équilibrée de ton quartier, quoi. C'est vrai. Après, honnêtement, je regrette rien. C'était une chance. Ça m'a permis de connaître Souchon et Woolsey avant mes potes et de comprendre qu'il a aussi des belles chansons, Gérard Lenormand. Allez, bonne émission. Les amis.
Merci, Guy.
Merci, bravo.
La bande originale, le meilleur moment sur France Inter.
Je sais bien que rue Belleville, rien n'est fait pour moi. Mais je suis dans une belle ville, c'est déjà ça.
C'est déjà ça sur le double album, entre autres, live de Souchon Woolsey, qui s'appelle Le Concert. Quand on vous annonçait la venue d'Alain Souchon et Laurent Woolsey, Laïla, vos oreilles ont sifflé.
Et oui, et Laurent, j'ai pensé à un musicien très charismatique que vous connaissez depuis l'enfance et qui a fondé un groupe qui a marqué l'histoire de la musique. Magma, Christian Vendeur,
mais
c'est
oui,
ça?
Bien sûr.
Fondateur de Magma, un groupe qui mêle rock, jazz,
qui a inventé une langue.
Avant-garde, oui, c'est ça, oui, chant choral.
Le cobayen.
Le cobayen. Et alors, vous avez rencontré Christian Vendeur quand vous étiez tout petit, en fait?
On était dans la même classe.
Ouais.
On a sympathisé, on s'est connus, on avait 8 ans, 9 ans tous les deux. On s'est retrouvés à Nogent-sur-Marne dans la même classe. On a été copains tout le temps et après on s'est perdu de vue plus tard.
Christian Vendeur.
Ouais, Christian Vendeur. Et on était à peu près proches en plus parce que j'étais élevé par ma maman seule avec mes frères et sœurs et lui et ma maman avait fait de la danse, sa maman aussi, mais il était élevé par des gens de sa famille. Il avait un peu un cas social, quoi. Donc ça nous rapprochait. Et le premier groupe que j'ai fait de ma vie, c'était quand on était en colonie de vacances chez les curés.
Bonne référence.
Moi j'étais un peu cœur vaillant à l'époque, lui je sais pas, mais on s'est retrouvés en colonie de vacances. Et un jour on avait un sac à dos tous les deux, puis on marchait. On avait fait une marche avec notre équipe. On avait 10 ans. Et j'ai chanté un morceau des Shadows qui devait s'appeler FBI, mais je suis pas sûr. Et c'est dan 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 dan, un truc comme ça. Et lui, il faisait la basse et la batterie avec la bouche. Et j'ai trouvé ça dingue.
C'était un instrumental. Hein.
Les Shadows, c'était un groupe instrumental. Ouais. Et c'était dingue. C'est ma première sensation d'instrument avec un. On faisait les instruments avec la bouche et lui il faisait et les deux ensemble je trouvais ça fantastique quoi.
C'est l'un des plus grands batteurs que l'on ait en France.
Et vous avez jamais eu envie de travailler avec lui, de faire des choses?
Alors, mais t'as dû faire des trucs avec lui, non?
Non, le deuxième. Alors, je suis monté une fois sur scène. Il jouait avec Claude Le Perron. Il avait un groupe à la Maison des Jeunes. On était deux groupes concurrents. Et lui, un jour, je suis monté sur scène avec lui. La seule fois où j'ai joué avec lui, c'était un morceau avec le groupe de Claude qui s'appelait Les Pierres à Feu. Ils ont joué. Et lui, il jouait dans le groupe Vendeur à l'époque. Et il jouait un morceau des Stones qui s'appelle Not Fade Away. Et je suis monté sur scène avec eux. Et j'ai joué des maracas. C'est la seule fois de ma vie où j'ai joué. C'est la seule fois où j'ai joué avec lui.
Faut préciser que dans le groupe, dans Magma et la musique très
expérimentale,
ouais, c'est ça. Non, c'est quand même du
avant-gardiste,
c'est de la recherche qui fait.
Il y avait un bassiste, Yannick Top, qui a été aussi producteur.
Ah oui, oui, bien sûr.
Ah, il était dans Magma.
Oui, oui, oui. Non, il y a d'autres. Vendeur est un peu un génie, quoi.
C'est
un mec, il est barré, mais il est fantastique, quoi. Je pourrais raconter des tas d'histoires, parce que déjà à l'école, quand il avait 10-11 ans, il disait des trucs invraisemblables. Et voilà. Et qu'est-ce que je voulais dire un autre truc sur lui, mais ah oui, on a failli jouer sur mon deuxième disque, Alain, qui s'appelait La sorcière. Alors la maison à croquer, la sorcière. Je me dis la sorcière, c'est un titre pour lui ça.
Je me dis
c'est une occasion de jouer ensemble. Je l'ai appelé Et il est pas venu, il m'a rappelé après, il m'a dit, je peux pas venir parce que sur ma batterie, j'ai une Austin, je pouvais avoir qu'une Austin de la semaine prochaine, et ma batterie peut pas rentrer parce que sur les mécaniques de ma grosse caisse, c'est des fers de lance. J'ai dit ok, on va. Et voilà, autrement, il est un musicien génial.
Il est incroyablement charismatique sur scène, j'ai vu des vidéos, c'était assez fou. Quand je pense à vous, Alain, parce que je pense aussi à vous, Alain Souchon, je pense à un film que vous avez vu un nombre incalculable de fois, paraît-il.
Catherine était contente du succès de sa ruse. Jim et Jules étaient émus comme par un symbole qu'ils ne comprenaient pas.
Ou bien je rêve, ou alors il pleut.
C'est peut-être les deux. Alors s'il pleut, partons au bord de la mer.
On part demain.
Le terrain me paraît excellent. Je propose une course de vitesse. Au premier qui arrive au bout de la passerelle.
Jules et Jim de Truffaut. Je crois avoir lu que c'est un film que vous avez vu plus d'une
trois centaines de fois. Tout y est merveilleux. Ne serait déjà les images en noir et blanc, c'est fascinant parce que c'est très poétique par rapport au réalisme de tout actuel. Et puis la gouaille de Jeanne Moreau, la beauté de ces deux acteurs masculins, la voix de Truffaut qui raconte l'histoire d'une manière imperturbable comme il sait faire. Tout est
un peu comme vous faites
tout
là maintenant,
qui me transporte complètement.
Non, vous aimez cette voix comme ça qui plane un peu quand vous racontez l'histoire vous-même.
Alors là, je ne me rends pas compte du tout.
Arrêtez de vous signer. Qu'est-ce
non, je me signe parce que je comprends pas.
Votre propre voix, la manière dont vous la faites planante par moment.
Non.
Mais si.
Je sais pas, enfin, c'est bon, d'accord.
Et pour revenir à Jules et Jim, je me disais, en voyant un film comme ça, qu'il y avait quelque chose de très poétique, vous venez de le dire. Oui. Est-ce que vous écrivez vous aussi beaucoup de chansons? Il y a un rapport à l'inspiration qui est fort. Est-ce que c'est le genre de films qui peuvent être des nourritures aussi, conscientes, inconscientes,
oui,
pour
sûr.
Ensuite produire?
Sûrement.
Vous êtes en recherche de ça dans votre quotidien?
Oui, on cherche des bouts de phrases, des inspirations, des trucs, raconter une chose d'une manière un peu drôle et tout, et ça peut venir de Jules et Jim ou de l'élection de François Fillon ou d'Albert Algou, on peut pas savoir.
Ouais, d'accord, tout ça est très diffus.
Non, mais c'est vrai, c'est vachement sympa de faire des chansons en fait, parce qu'on chope des trucs dans la rue qui vous appartiennent même pas, une phrase qui vous inspire et qui vous fait faire une chanson qui après vous change votre vie. C'est on a du bol de faire notre métier.
Limite tes pores et tu pleures sur le cuir rouge de
Pas cuir rouge. Moi, j'aime pas trop cuir rouge. Si tu dis que cuir, ça fait bagnole anglais. Si tu dis cuir rouge de ta Chrysler, une Chrysler, c'est mieux avec du cuir rouge.
Mais pour le son, pour la mélodie, je trouve que c'est mieux cuir de ta Chrysler.
Jimmy, t'es grand, mais tu pleures sur le cuir de ta Chrysler. Jimmy, t'es fort, mais tu pleures sur le cuir de ta Chrysler.
C'est mieux.
C'est beau le work in progress comme ça, ouais, j'adore. Vous allez tellement bien ensemble, c'est tellement complémentaire. Ouais. On va en parler justement avec Bertrand Dical. Viens nous rejoindre.
Le grand, il est là, Bertrand Dical.
Le grand Bertrand Dical de France.
Il se cachait.
Qui signe le dictionnaire amoureux de la chanson française. Comment on peut les qualifier ce duo qui est une évidence, Souchon vous le dit, et pourtant il n'y en a pas tant que ça des duos avec autant de connivence, paroles et musique.
Il n'y en a pas. C'est-à-dire qu'il y a parfois des créateurs qui ont écrit pour d'autres. Alors ça, il y en a plein. Brassens, il a donné des chansons à Marcel Amont. Gainsbourg, même quand Gainsbourg était glorieux, je parle pas de Gainsbourg au début, quand il écrivait des chansons à la commande, il a travaillé pour Bachung, il a travaillé pour Alain Chanfort, il a vraiment travaillé pour eux.
Goldman, dont on parlait tout à l'heure.
Goldman donne des chansons à des stars, alors qu'il est lui-même star. Mais c'est cette rencontre qui dure quelques dizaines d'années, toujours à peu près à ce même niveau d'interaction entre, grosso modo, un compositeur qui écrit aussi des paroles de chansons et un parolier, un auteur de chansons qui fait aussi des mélodies, qui est aussi compositeur. C'est assez unique. C'est assez unique et je vois pas d'autres exemples.
Il y a une Sheila et Ringo quand même pour
Est-ce que votre complémentarité est extrêmement bien définie, c'est-à-dire qu'il y a essentiellement Alain Souchon sur les paroles, vous sur la musique, ou est-ce que c'est plus entremêlé que ça?
Ce qui se passe, c'est quand on travaille beaucoup ensemble. La plupart des paroles, des chansons, aussi bien de lui que moi, on les fait ensemble. Mm-hmm. Je lui dis qu'est-ce que si on dit ça, si on dit Albert Algué sympa.
Comme on a entendu.
T'aimes bien la phrase, Albert Algué sympa. Il me dit oh pas tellement.
Faut changer le nom.
Et pareil sur la musique, parce que on a toujours l'image de vous Laurent avec une guitare, mais Alain aussi est musicien. Donc
Alain est musicien. D'abord il a fait au moins sur scène, il fait souvent des chansons seul. Alain aussi. Et quand on travaille
j'aime
à deux.
Bien quand il dit ça.
Quand on travaille à deux, on a une tendance, moi, une tendance à m'occuper un peu de la musique et Alain c'est du ça. Texte. Il dit que je participe au texte. C'est où je trouve de temps en temps un mot, un truc, mais enfin. Bah, alors,
c'est ça, Bertrand Dicalque, pardon. C'est ça qu'il y a de plus rare, parce que autant c'est vrai que quand on prend les gens, Boris Berman ou Jean Fauque avec Bachung, on sait exactement qui fait quoi, même si Bachung se mêlait aussi de la structure des textes, oui, pour les modifier.
Mais ce qui avec eux, c'est que c'est cette interaction, elle fait aussi que Souchon, vous le disiez un peu tout à l'heure, Souchon, il écrit vraiment du Woolsey, c'est-à-dire que quand il écrit pour Woolsey, il écrit même des choses dont on a l'idée qu'il ne les pense pas. C'est-à-dire que quand vous avez écrit caché derrière, c'est certainement pas
vos
convictions philosophiques, c'est certainement pas votre vision spirituelle du monde, mais vous l'écrivez avec une absolue pertinence pour vous le dire. Et c'est ça qui est assez
fascinant. Parce que j'aime bien qu'il soit comme ça, en fait. Donc ça me botte, qu'il sait qu'il aime qu'éventuellement il y a des anges, des fées, des trucs, ça. Il a envie de ça. J'aime bien qu'il soit comme ça. Donc on fait la chanson avec plaisir, quoi.
Mais ce qui est fascinant,
en m'identifiant à lui.
Mais ce qui est fascinant aussi, c'est à quel point les musiques que Laurent fait pour Alain sont très Alain Souchon. Et ce qui est, c'est peut-être encore plus délirant, c'est à quel point vous composez pour lui et ça ressemble aux compositions qu'il fait pour lui-même. C'est un peu le même accent. Je suis pas très fort en solfège, mais c'est un peu les mêmes modes, c'est un peu les mêmes couleurs, c'est un peu parfois les mêmes mécaniques. Ça ressemble vraiment à votre voix.
Non, mais mon style musical, j'en ai pas. Mon style musical, c'est Laurent. C'est mon style musical, Laurent. C'est-à-dire que
non, l'exemple de Foule Sentimentale.
Toutes les premières chansons qui ont eu un peu de succès, pardon, c'est lui qui a fait la musique. Donc ça. Après, moi, j'en ai fait tout seul, mais tout de suite, on voit tout de suite que je l'ai fait tout seul.
Enfin, Foule Sentimentale, c'est quand même un monument.
Ah oui,
celle-là.
Oui, bien sûr.
Et c'est le nom de l'émission de Didier Varro, notre confrère de France Inter.
Et Foule Sentimentale.
Ce cher Didier Varro.
Cher Didier.
Foule Sentimentale, repéré par Laurent Woolsey, donc apparemment. C'est-à-dire que vous avez joué ces notes sans trop y croire, et c'est lui qui a ressenti le potentiel.
Oui. Mais Bertrand, c'est un peu le même phénomène. Alain se met, je dirais, entre guillemets, ou je sais pas, à mon service, en moi, quoi. Quand il fait des paroles, quand il chante, quand on fait Belle-Île en mer ou Le Soleil donne, c'est ma vie, ou Recollection et tout ça. Et moi, alors, c'est pas les textes, mais c'est que quand on part travailler pour l'un ou pour l'autre, quand on part travailler avec Alain, il est en face de moi, j'ai sa voix dans mon oreille, j'ai sa façon de chanter, et les musiques, même si c'est des musiques que j'ai faites, elles vont aller à sa voix, elles vont aller à son physique, à ce qu'il peut dire, ou des fois il me donne une idée de chanson et je vais partir là-dessus. Alain ne tient pas trop les notes, il est plus.
Pourquoi tu dis ça? J'ai une belle voix.
Il y a des gens qui tiennent pas les notes mais qui ont des voix magnifiques, Alain.
C'est vrai.
C'est bien sûr. C'est pas ce que je veux dire. Non, mais moi, je vais avoir une tendance.
Tu tiens les notes, toi?
Pas trop, mais
je me fais mieux déjà.
Non, c'est pas ce que je veux dire. C'est que moi, j'ai une tendance à mettre des chœurs, etc. Donc, on va avoir des couleurs très différentes. Alain, il interprète, jamais deux fois de suite, il chante une chanson pareille.
Est-ce qu'autour de vous, vos managers, vos conseillers, vos maisons de disques respectives, vous ont dit, oulala, attention, il risque d'y avoir une espèce de pollution d'image. Après, s'il y a un album qui va venir après cette tournée, ça va être difficile de communiquer en disant, non, mais ils sont plus ensemble, mais ils continuent. Enfin, bref, est-ce qu'on vous a mis des petits warnings?
Rien.
Rien.
Aucun warning. On a eu l'idée de... Alors bon, cette idée, effectivement, alors je sais pas, pour moi, elle datait un peu des début des années 2000, mais peut-être 90, je sais pas. On a commencé à se dire, peut-être qu'un jour, ce serait sympa qu'on chante, qu'on chante nos chansons sur scène, ensemble. Et après, j'ai... Il y a quelques temps, j'ai dit à Alain, il y a peut-être 7-8 ans, je lui ai dit, allez chanter nos chansons ensemble, c'est sympa, mais... Il faut mieux. Ce qui serait sympa, c'est de faire un disque
d'abord
ensemble. Ben ouais.
Oui, je moi j'avais une vision rentier du truc, c'est-à-dire on a fait des tubes. Tu prends ta guitare, juste les guitares. On va dans les zéniths, tu joues de la guitare, on chante nos tubes, puis voilà, ça fait rente.
Ça, on appelle ça best-of dans le monde de la musique.
Best-of, voilà. Et il m'a dit, non mais ça va pas, t'as une mentalité de rentier, il me disait, faut faire des nouvelles chansons,
faut créer.
Vivant, faut créer. J'ai dit, bon d'accord.
Non alors c'est pas tout à fait comme ça, mais j'ai un peu poussé à la roue, et je me suis dit, Alain m'a dit, il avait raison, il m'a dit, ça va pas être si facile de faire des chansons pour nous deux, parce qu'elles sont très différentes, les chansons qu'on chante l'un et l'autre. Mais je sais qu'il y a quelques chansons d'Alain que j'aurais pu chanter, et qu'Alain aime bien chanter aussi de quelques chansons avec moi. Je me suis dit, s'il y a 4-5 chansons qu'on aime chanter à deux, ben on est capable d'en écrire 10 pour nous deux. Et donc, c'est ce qu'on a fait. Il fallait qu'on soit bien dans nos baskets, dans les chansons qu'on chante. Parce qu'Alain est un révolutionnaire, et moi, je suis tout gentil et tout. Donc, il fallait trouver le...
Mort n'est son cœur. Et sans raison, vers 5 heures, il quitte la maison. Il démarre sans raison, comme aspiré par l'eau.
Peut-être l'amour, peut-être la vie va tomber du jour, ou simplement l'ennui. Partir dans la nuit, partir comme ça, cette envie, tout le monde l'a. L'armor baleine, Guingamp, dehors le noir de la plaine, et puis le noir dedans. Il part. Comme s'il allait quelque part, les s'en a dans la salle, sur le sol éparpillé les fleurs du bal.
Les fleurs du bal.
Dans l'axe de son moteur, il décolle son accélérateur. Les guitares qui jouent fort dans son cockpit lui sont très conformes, amniotiques.
Alain Souchon, Laurent Voulzy, l'album s'appelle Le Concert, 2 CD plus le DVD. Tout à l'heure vous parliez de l'élégance artistique du noir et blanc, c'est ce que l'on retrouve aussi avec cette pochette de deux amis, bras dessus, bras dessous. Daniel Morin, on voit bien que la relation entre un interprète et son auteur peut tourner par moments à des problèmes d'ego, mais finalement c'est un peu normal que chacun aussi défende son biscuit, son savoir-faire, son talent.
Ce qu'il est bon, le basané d'Alexandrie. Si vous continuez comme ça, monsieur Guy, vous allez voir, un jour, on va vous accorder la citoyenneté française. Hein. Vous êtes excellent. Juste, petit bémol, quand je vous écoute, je suis catastrophé.
Ah oui, je sais.
Vous êtes le fossoyeur du génie artistique bienveillant. Non, monsieur Guy, une collaboration entre un auteur et un interprète peut bien se passer. Regardez, vous et tous ceux qui écrivent vos fiches. Tous ceux qui écrivent vos questions géniales et vos relances de légende. Eh ben, ça se passe super bien. Aucun problème d'égo là-dedans. Ils écrivent vous hurler, ils recommencent vous gifler, ils s'excusent vous lancer, la foule admire et vous empochez. Aucun conflit whatsoever dans cette affaire d'auteur-interprète. J'ai également en mémoire l'exemple d'un humoriste de grand talent au physique fulgurant et à l'érudition foudroyante.
Vous.
Voilà, comme quoi je n'invente rien, c'est de notoriété publique. J'écris sublimement des textes que je me propose à moi-même une fois que je les ai lus.
Si vous les comprenez.
Si je les comprends, c'est ça, si j'arrive à les relire. Du coup, quand je me relis, je m'auto-valide et j'interprète magnifiquement, quelquefois, ce que je viens de me proposer.
N'importe quoi.
Je délivre tout cela de façon magistrale et festive à la fois. Et tout ça, messieurs, dames, oui, tout ça pour une obole, service public oblige. Et là encore, point de conflit. Comme quoi, une fois encore, monsieur Guy, désolé, vous avez encore dit
N'importe quoi.
Merci, Léonard, merci.
Le meilleur moment de la bande originale avec Nagui.
Il y aura donc Pierre Souchon, Ours, Gaël Faure et Alain Souchon. Et ils nous offrent à nouveau, tous les cinq accompagnés par Vincent à la basse, la balade de Jim dans cette bande originale.
Jim Alene, il voit du gin dans sa chrysler. La presqu'île, le boulevard de la mer est con. Comme elle est partie, attention, Jimmy tourne en rond. Hier soir encore son héroïne le serrait si fort en disant Jim. Elle était son calmant, son alcool profond. Comme elle est partie, attention, Jimmy tourne pas rond. Jimmy, t'es fort, mais tu pleures sur le cuir de ta chrysler. Là-bas, le soleil s'écroule dans la mer. Jimmy, les filles pour le cœur, comme l'alcool et les revolvers. C'est sauter en l'air, tomber par terre. Depuis deux ans sur Jim bossait fort pour que sa starlette bronze en hors-bord. Avec elle, il voulait un bébé sans rire. Comme elle est partie, attention, Jimmy veut mourir. Mais tu pleures sur le cuir de ta chrysler. Là-bas le soleil s'écroule dans la mer. Jimmy, les filles pour le cœur, comme l'alcool et les revolvers. C'est sauter en l'air et puis tomber par terre. Boum. Jimmy va trop vite, Jimmy pleurniche. Il sent son parfum sur la corniche. Les lacets, le gravier est dans l'air du soir. La chrysler s'envole dans les fougères et les nénuphars.
Le meilleur de la bande originale, ça continue avec Leïla Kado Boudadi, Daniel Morin, Tom Villa, Nora Mzaoui, nos invités Audrey Tautou et Edouard Baird avec en live Naïve New Beaters. Le meilleur de la bande originale, c'est tout de suite.
Ça
marche au micro là
ouais, ouais, oui.
Allez-y Edouard.
Tu veux chanter Edouard?
Dans le studio 106 de la maison de la radio, il y a des ombres, des fantômes, des souvenirs idiots. T'as Nagui, jamais une vieillie, jamais une grossie, t'as Nagui, qui est assis, qui tweet, qui Instagram, qui Facebook, qui LinkedIn. Faut dire que, comme on déjeune, on dîne, le temps passe, pas lui. Il passe pas, il s'assoit, il est chez lui. Et puis nous, on est là, des promos, des moins 20%, des moins 30%, viens voir mon film, il est plus beau que le tien, il est plus grand. Et puis t'as Dalida aussi. Et puis, allez, allez, file, merci Lornac, t'étais bien avec ta moustache avant.
Edouard Baird, donc, et André Toto, nous sommes invités. Nous parlons de Ouvert la nuit.
Le film d'Edouard.
Ce film qui raconte...
Vous allez lasser les gens.
L'histoire.
Non. Sans l'avoir vu, les gens dorment.
Ils se disent, mais à quel moment ça arrive? Bah, si en tout cas vous êtes jusqu'à arriver à cette phrase, c'est au moins, c'est bon signe pour vous. Cette phrase est bien dans le film, avec un casting incroyable, vraiment une en termes d'affiches de qualité de comédiens et de jeux. Et d'ailleurs, vous embarquez les gens dans votre projet. On va revenir à l'histoire dans quelques instants. Mais est-ce que vous allez les voir personnellement pour tisser un lien d'amitié aussi, étant donné les rapports que vous avez avec les uns et les autres, ou est-ce que ça se fait comme un film avec un directeur de casting, avec des agents qui s'appellent entre eux?
Non, il y a Stéphane Funkinos qui m'a aidé pour certains rôles, parce que pour avoir des idées comme ça, même parmi des gens qu'on connaît, il y a des gens avec qui on a fait beaucoup de spectacles. Et puis il y a des rôles, par exemple, c'est vrai qu'Audrey, au début, comme ça n'est pas le rôle principal, j'aurais pas osé lui proposer le film. Donc je lui ai demandé, parce qu'elle a aussi un très très bon œil sur le scénario, c'est quelqu'un qui lit incroyablement, je trouve, sa lecture sur les films. Donc je lui ai dit, est-ce que, comme on est amis dans la vie, est-ce que tu veux bien lire mon film et me donner ton avis sur le scénario? Alors elle m'a dit oui. Et puis elle l'a lu, elle m'a dit, écoute, je crois que tu as plutôt aimé. Elle m'a dit, écoute, c'est bien, mais j'ai deux, trois petites notes. Et puis je lui ai dit, qu'est-ce que
c'est
tu penses?
C'est mignon, c'est top. Et elle a modifié des choses.
Elle avait stabilisé bossé, c'était incroyable. Elle travaillait, c'est vraiment de l'amitié, de la gentillesse. Et ensuite, je lui ai dit, ok, donc j'ai l'impression que tu aimes. Et qu'est-ce que tu penses du personnage de Nawel? Elle me dit, oui, il est pas mal. Si tu veux pas le jouer? Ah ben d'accord. Elle m'a dit,
voilà. Après, voilà. J'imagine qu'il y a des problèmes de planning et d'emploi du temps pour pouvoir réunir tout ce monde en même temps, non? Edouard? C'est vous qui avez dû réunir tout le monde. Oui,
oui, bien sûr. Non, mais il y a peut-être après, peut-être pour certains rôles, on a peut-être abordé d'autres gens qui ont été remplacés. Vous savez, ça arrive aussi. Peut-être il y a un ou deux rôles où on a. Mais après, il n'y a pas de premier ou de second choix, parce que quand un acteur accepte un rôle, même s'il n'était pas écrit pour lui, on le réécrit entièrement pour lui. Moi, j'essaie d'être dans la musique des gens qui vont jouer et de ne pas coller une autre personnalité à un rôle.
Comment vous le qualifiez de fable, de comédie, ce film, de folle histoire d'Edouard Baird dans les nuits parisiennes, de road movie culturel? Comment vous le qualifieriez, Audrey, ce film?
Comment je le qualifie?
Vous avez fait tellement de genres différents, justement.
Non, mais c'est une comédie, c'est une comédie, je trouve, poétique, libre, insoupçonné, voilà.
Déjanté, puis ça va bien à Edouard Baird quand même, c'est bien son univers, il n'y a que lui qui puisse faire ce genre de film.
Ah oui, je pense qu'il n'y a que lui. En tout cas, quand on entendait cette dame anthropologue parler de la nuit, j'ai été frappée par son discours que j'ai trouvé vraiment intéressant et tellement juste. Je trouve que finalement, c'est elle qui a le mieux parlé du film d'Edouard. Et je me suis dit,
merci.
Mais il a une connaissance.
Non,
mais...
elle est très susceptible.
Non, mais c'est parce que...
Je voulais dire que je vous aimais bien, mais c'était avant.
Je trouvais que quand elle parlait, c'est vrai, de vertige, d'improvisation, de codes qui disparaissent, de rencontres d'un seul coup... qui sont inattendus, j'ai trouvé que c'était très beau.
Leïla cadeau, si on a très,
non mais
très bien
ça m'a c'est, non mais c'est intéressant.
On a bien comprimé ça. Voilà, ceux qui non, en parlent non. mieux, c'est ceux qui sont pas payés. Alors très bien.
Non, mais très bien.
Il sort ça.
Mais c'est là Leïla cadeau, personne ne l'a.
Je veux dire un câlin, mieux que moi. Je veux un câlin.
Mieux que moi.
Bon, pendant le câlin, entre Edouard et Leïla, voici l'humeur, puisqu'on rappelle que notre regretté Daniel Morin, ça fait l'impression qu'il est plus.
Mais il est pas parti encore.
Il est pas parti. Et juste, il a une gastro. Il est trop
comme
à la mode.
On l'aura aimé, Daniel Morin.
Ouais. Pas tous les jours.
Enfant de l'amour.
Pas tous les
jours. De l'alcool. Pas de l'écho. Il y a pas un tout petit peu d'écho. Je peux avoir
de
l'écho sur l'écho.
Si, bien sûr.
Daniel Morin. J'ai pas la réverbe. Allô.
je l'ai pas dans le casque, non, là, si vous pouvez pas mettre
un peu de suite.
Daniel Morin, enfant de Jésus, disciple préféré de Christ. Jésus se baladait quinca le long du lac de Samarie avec Daniel Morin à ses côtés. Il rompit le pain, en donna à Daniel Morin qui demanda du vin. Il en redemanda encore un petit peu et ensuite il arriva chez lui. Il fut malade. Moralité, ne prends pas de vin avec Daniel Morin.
Et voici l'humeur de Tom Villa.
La bande originale, les meilleurs moments sur France Inter.
Alors, humeur un petit peu. Bon, déjà, on va pas se mentir, voilà. On m'a prévenu à 9h57. On m'a dit, tiens, si tu peux faire un petit truc à 12h10.
Oui.
Voilà. Donc,
C'est pour ça que c'est 12h12.
En termes de préparation, bon, voilà. Non, du coup, je vais vous raconter mon petit épisode de mon week-end, parce que ce week-end, bon, comme beaucoup de gens, j'ai été faire mes courses, et il se trouve que j'arrive à la caisse du supermarché, et je vois que juste devant moi, il y a un monsieur qui achète juste un truc. Du coup, ça attire mon attention, je regarde, et je vois que le mec achète un tube de lubrifiant. Alors, on n'est pas là pour
dans
juger.
Un supermarché?
Dans un supermarché, Carrefour Market, Arts et Métiers.
Non, mais ça va.
Bah oui, c'est vrai.
Mais t'es fou?
Mais non, c'est vrai, tu vois, donc je regarde.
Qu'a donné l'heure aussi.
On n'est pas là pour juger les achats des gens.
Non.
Mais a priori, il avait une mission. Et, non, mais c'est vrai que ça nous arrive, tu vois, quand je veux dire, t'arrives à la caisse, le mec devant toi il achète, je sais pas, des préservatifs, tu dis bah tiens, lui il va passer une bonne soirée, tu vois, alors que quand devant toi t'as un mec qui achète du lubrifiant, tu sais, moi je me dis bah tiens, j'aimerais pas être à sa place. Enfin bon, bref, c'est un truc, mais non, mais ce que je veux dire, c'est que moi d'habitude quand j'achète ce genre de produit, j'achète toujours un produit prétexte à côté, tu sais, j'achète des capotes, j'achète des cookies, j'essaie de l'embrouiller la caissière, tu vois. Vous les filles, je sais que vous avez la même technique, tu sais, des tampons, des serviettes, oh, un pamplemousse, on sait pas ce qu'il fout là, mais il était là. Voilà, ce que je veux dire, c'est que ce monsieur, il aurait pu acheter, je sais pas moi, un truc pour faire diversion, un truc pas cher, on s'en fout, je sais pas moi, une pomme, tu vois. Bon, après c'est sûr, tu te dis une pomme,
un lubrifiant
et du lubrifiant.
Ah non.
Qu'est-ce qu'il va faire avec la pomme, ce con? Alors ça me permet de rebondir parce que ce week-end aussi, j'ai retrouvé un vieux copain du lycée que j'avais pas vu depuis 10 ans. On s'est retrouvé sur Facebook et au lycée, ce copain-là, il était c'est le gros dragueur. Il chopait toutes les filles. Et là, on s'est retrouvé 10 ans après et on a discuté un petit peu. Il m'a annoncé qu'il était devenu homo. Il a fait son coming out et je suis très heureux pour lui. Et il m'a expliqué. Il m'a dit en fait, il y a deux manières de faire son coming out. T'as la première méthode qui est la méthode douce, entre guillemets, où tu sais, tu laisses des indices aux gens pour qu'ils comprennent par eux-mêmes. C'est comme, c'est un jeu de piste, c'est un cluedo, tu vois, tu laisses traîner, je sais pas moi, un CD de Mylène Farmer, un DVD de Brokeback Mountain, la télé sur Stéphane Bern, et après les gens ils comprennent par eux-mêmes, tu vois. Après il m'a dit sinon, il m'a expliqué, sinon il y a la deuxième méthode, mais là qui est plus radicale, c'est comme un sparadrap, tu sais, faut l'arracher direct. C'est... Allez, j'aime les kikis, on prend l'apéro ou pas maintenant les gars? Allez, qui veut la suivre? Qui suce qui? C'est parti, c'est plus radical. Mon pote là, il a adopté il y a pas longtemps avec son mec deux petits asiatiques, un frère et une sœur, et il m'a expliqué avec beaucoup de tendresse, il m'a dit bah j'ai pris les deux parce que je me suis dit, quitte à ce qu'ils n'aient pas leurs vrais parents biologiques, au moins ils auront une partie de leur famille.
Il y a son frère et sœur.
Voilà, j'ai trouvé ça très, très touchant. Après, il m'a dit, bon, comme j'ai eu 50% sur le deuxième, j'ai fait une belle opération. Mais non, il m'a expliqué le gros avantage de l'adoption, c'est que si jamais le gamin, il fait une connerie, tu peux dire que ce n'est pas le tien. Si tu sais, t'es au supermarché, pardon madame, le petit asiatique là qui vole les bonbons, non c'est pas moi.
C'est moche.
Bah, a priori j'ai pas joué dans Tigre et Dragon, donc tu peux t'en sortir.
Mais salaud.
Mais c'est pas le pire, c'est pas le pire. Moi je me souviens quand j'étais ado, ma mère elle arrêtait pas de me poser des questions un peu comme un flic pour essayer de tu sais, prêcher le faux pour avoir le vrai, elle aimait bien. Et je me souviens un coup elle était venue me voir, elle m'avait dit, Tom tu sais, si tu fumes tu peux me le dire, y a pas de souci. Et je sais qu'elle m'a dit ça parce qu'elle a vu le fils des voisins fumer en cachette derrière la maison dans un buisson. Et là il y a quelques temps, j'ai l'impression qu'elle a eu des doutes sur ma sexualité. Elle est venue me voir. Elle m'a dit, tu sais, Tom, si t'es homosexuel, tu peux me le dire, il n'y a pas de souci. La question que je me pose, c'est est-ce qu'elle a vu le fils des voisins derrière la maison avec une pomme et du lubrifiant? Je ne sais pas. Moi, je sais, par exemple, si j'avais dû faire mon coming out, je sais exactement comment j'aurais fait.
Alors, oui, comment?
J'aurais été voir mes parents avec mon mec et une fille très moche. Et je leur aurais dit, alors, qu'est-ce que vous préférez?
C'est pas joli, ça.
Dites-moi.
C'est pas joli.
Mais vous avez vu, dans les deux cas, il y aura pas d'enfant, hein. Voilà. Je vous souhaite une bonne journée,
Nagui. Merci, Tom
Villa. La bande originale, le best-of sur France Inter.
Bon, vivement que Daniel se soigne.
Mais voilà, on dépanne les copains, on essaie d'ouvrir un petit peu son cœur, et on se fait cracher au museau.
Tu l'as trop ouvert. Je voulais connaître votre opinion juste avant le brouillon de culture de Leïla, votre opinion sur la comédie musicale du fabuleux destin d'Amélie Poulain qui se monte.
Ah, bah, je trouve ça très bien, moi. Parce que je sais pas, j'en pense pas grand chose, si ce n'est que j'espère que ça va être réussi, que ça va avoir du succès.
Je n'ai plus été plus réticent apparemment à donner son autorisation.
Jean-Pierre, il est un petit peu ours hein, toujours, hein, mais non, mais moi je trouve ça bien que ça que ça appartienne à d'autres et puis si ça peut permettre de.
C'est au printemps prochain à Broadway, hein, c'est ça?
Alors ça, je sais pas, moi franchement.
Vous y serez pas, vous allez
pas
voir.
Ah non, je serai pas, non.
Par curiosité, non, même pas. D'accord.
Oui, bah si, je le verrai peut-être, mais en tout cas, je ne vais pas y aller.
Si c'est Nagui qui paye l'aller-retour.
Je veux bien l'inviter. Oui. Le fabuleux destin d'Amélie Poulain commencera donc à Broadway au printemps prochain. Et ça sera Philippa Sou qui jouera la serveuse de Montmartre, rêveuse et passionnée.
Ah oui, le rôle d'Audrey. Ah oui,
c'est moi bien.
Vous n'avez pas déjà eu une comédie musicale
Alors, je ne crois pas, parce que Jean-Pierre
Gage au folle, il y avait eu.
Jean-Pierre.
Non, mais Trois d'Amélie, non, j'avais entendu parler de ça.
Il me semble pas,
parce que
là, il a déclaré avoir en horreur les comédies musicales.
Bon, ben
il
voilà.
Détestait Broadway, l'idée
des Américains, la comédie musicale de Broadway.
Et il a la Land.
Alors, tenez-vous bien, il a déclaré, je considère que c'est l'incarnation même de la ringardise. J'ai résisté pendant longtemps, j'ai refusé toutes les propositions. Pourquoi accepter maintenant? C'est un peu la crise. Je soutiens une association qui s'appelle Mécénat Chirurgie Cardiaque. Il faut 10 000 euros pour sauver un seul enfant. J'ai participé à sauver déjà une bonne douzaine d'enfants. Et là, je me suis dit qu'il y avait une occasion de gagner de l'argent supplémentaire pour sauver les enfants. Donc l'argent de cette comédie musicale ira à cette association Mécénat Chirurgie Cardiaque. Donc il l'a fait pour le bien des enfants, mais à contre-cœur, son mauvais jeu de mots.
Peut-être.
C'est beau.
Non, mais c'est vrai qu'il soutient Mécénat Chirurgie Cardiaque depuis très longtemps. Et activement, et voilà, il a dû vouloir donner un sens à quelque chose.
J'adore son intégrité.
Ça c'est sûr, hein. Ça c'est pas quelqu'un qui qui est forcément très diplomate.
J'adore. Non, mais
on lui reproche
il est
assez.
Il est franc du collier.
Mais oui, mais bon, voilà, il a ses goûts, il a des goûts entiers, il a très haute estime du cinéma, hein, aussi, une grande exigence, il faut aussi le voir travailler pour
alors
comprendre.
Alors qu'il aurait pu visiblement brader plusieurs fois et même merchandiser.
Surtout que ça lui coûterait rien de dire qu'il est très content, que ça le dérange pas du tout, comme je le fais, voilà, je veux dire, ça mange pas de pain de... Moi ça me dérange pas, mais je veux dire, voilà, on peut parfois ne pas être aussi...
Franc du collier.
Ouais, voilà, il va avoir plus de retour de bâton en disant ça que...
Bah dommage, bon. Parce que moi je trouve ça plutôt bien.
Ah mais moi aussi, il est tel qu'il est, ça c'est sûr.
Voici le brouillon de culture de Leïla Kazan-Boudadi pour Edouard Baird et Audrey Tautou.
Oui, Edouard, Audrey, je vous sors de la promo, de toute façon on n'a pas bien compris le film, alors bon ben voilà...
Oui, Véronique l'a mieux compris que nous.
Véronique était meilleure.
Ah non,
mais c'est vrai
mais
que Véronique était bien.
Ça fait culpabiliser pendant 3 ans, là, je vous assure.
Mais c'était une blague. Je vous sors de la promo.
Non, non. Pas par rapport à vous, c'est que j'entendais mon discours qui était tellement banal et j'arrivais pas bien m'exprimer. Donc
ouais,
c'est pour ça.
Tout va bien. Tout va bien. Un petit bol d'air. C'est notre brouillon de culture, histoire d'apprendre à mieux vous connaître. Et on commence par un son pour vous, Audrey.
Je suis arrivée au cœur, en fait, de ce qui restait de la guerre froide. C'est-à-dire ce Bernard Hauptstrasse, cette rue là comme ça qui était coupée en deux. Et il y avait des tensions entre les habitants comme ça. Et puis j'ai vu des enfants qui jouaient. Et au fond j'avais 18 ans et j'étais presque plus près des enfants que des adultes. Donc j'ai été faire des photos des enfants.
Voilà, c'est la voix d'un photographe devenu cinéaste qui a signé récemment Les Habitants. C'est Raymond Depardon, je sais pas pourquoi j'accroche sur des mots là comme ça, c'est lundi. Il parle de ses premières photos.
C'est bientôt la fin de la semaine, c'est pour ça.
C'est pour ça, lors de la construction du mur de Berlin. Et je crois que vous pratiquez beaucoup la photographie, Audrey. Vraisemblablement, vous prenez même en photo chaque journaliste qui vient vous interviewer.
Oui, j'ai fait ça pendant très longtemps et en effet, j'ai beaucoup de photos de journalistes. C'est assez frappant.
Quel rapport vous entretenez avec l'image, avec la photo? Pourquoi ça a été aussi présent? Je ne sais pas si ça l'est encore.
Si, j'aime beaucoup la photographie parce que c'est un art qui me plaît. Pourquoi? Je ne sais pas. Parce que c'est raconter toute une histoire en une image. Parce que c'est aussi sont aussi des univers tellement personnels et flagrants. Parce que je ne sais pas pourquoi, mais... Mais ça m'a toujours plu depuis que je suis enfant. Ouais.
Vous travaillez en numérique, en argentique
Non, moi je suis un peu à l'ancienne, je suis un peu en argentique. J'aime bien les surprises, les ratages.
Et vous trouvez encore des labos pour développer?
Oui. Il y en
a
moins.
Vous développez vous-même peut-être?
Non, je développe pas, non.
Ah, je crois que vous avez à peu près plus de 400 clichés et ça va pas donner lieu à un projet, une exposition, un bouquin. Il y a quelque chose qui se prépare, non?
C'est possible, ouais. C'est pas sûr, mais c'est... Enfin, voilà. Si.
Et ça serait autour de quelle idée
aussi. Moi, j'ai... C'est un projet comme ça, mais bon, c'est encore... Je suis encore...
En gestation.
J'ai pas pris dans mes bonnes résolutions d'avoir plus confiance en moi, donc j'attends encore un petit peu d'être sûre et certaine pour oser m'exprimer à ce sujet.
Il faudrait quoi pour que la confiance émerge?
J'ai fait un infarctus, hein. Je vais m'évanouir.
Il faudrait quoi pour que la confiance soit au rendez-vous?
Non, mais c'est en route, c'est en route. Voilà. C'est en route et j'espère que ça va arriver bientôt.
Et vous laissez voir ces clichés autour de vous?
À personne pour l'instant. Ouais. À très très peu de personnes.
On n'est pas encore pour...
À ma grand-mère qui est décédée, donc comme ça elle ne dira rien. je montrerai... Non, mais je le montre à très peu de personnes. Ouais. Mais bon, voilà. Mais ça va venir. Vous allez voir, ça va être super.
Bon, alors on poursuit à présent avec un autre son. Cette fois-ci, c'est pour vous, Edouard.
Mesdames, messieurs, je suis à votre disposition pour répondre à vos questions.
Monsieur Chabrol, qui avez-vous affecté sur l'affaire du meurtre de l'écrivain Raoul Mons?
J'ai spécialement détaché sur cette affaire l'inspecteur Lavardin qui est...
Eh oui, je suis flic.
Comment pouvez-vous faire confiance à un inspecteur aussi porté sur la bouteille?
Oh, écoutez, vous faites une confusion grossière avec Philippe Marlowe. Lavardin ne boit plus une goutte d'alcool.
À la police française.
On dit qu'il a des manières pas très catholiques.
Ouais, ben on dit ce qu'on veut. Il n'empêche que l'affaire avance, et vite.
C'est un extrait de la bande-annonce d'inspecteur Lavardin de Chabrol. Et j'ai lu qu'un de vos rêves pendant des années, cela aurait été de convaincre Chabrol de faire le fils de l'inspecteur Lavardin.
Oui, c'est vrai. Mais d'abord, j'adorais Claude Chabrol, et c'est aussi une façon d'être avec lui, parce que parfois il y a des cinéastes, on imagine que comme on est acteur, on veut les voir pour tourner avec eux, mais c'est pas. Il y a aussi des gens à qui on veut être physiquement. Moi, j'avais envie d'être où était Claude Chabrol. Il y a des gens comme ça. Moi, j'ai vu ça avec Gérard Depardieu. Il y a des gens qui me fascinent, ou Boulevard. Il y a des gens qui ont une intensité, qui ont une énergie, une sympathie, une poésie. Et Chabrol était comme ça, donc je voulais trouver des prétextes pour être pour dîner avec Claude Chabrol. Et puis à un moment, cette idée m'est traversée la tête et je lui ai dit alors Claude, j'ai une idée, je voudrais faire ne me dis pas au téléphone. Alors je suis à Saint-Sébastien Festival, je me dis je débarque, je me suis trompé de coach. Je croyais que Saint-Sébastien c'était à côté de Perpignan, c'était de l'autre côté, c'était vers Biarritz, c'était là-bas. Donc j'ai fait 19 heures de voiture, j'avais loué une bagnole à la gare de la gare de Lyon, bonne histoire, à Semantes. Et puis j'arrive, il était là, oui, ça va, il était rendez-vous avec des journalistes très importants à Restaurant, il me dit c'est quoi ton idée là, j'ai pas le temps, il me dit je voulais faire la fille de Lavardin. Très mauvaise idée, reste dîner. Donc j'étais très content quand même. Non, parce que j'adorais Jean Poiret, puis jouer un flic antipathique. J'adore Jean Poiret parce que dans Lavardin, il a déjà 60 ans, il empoigne des petits gars qui font énormément de muscu et on y croit, quoi. Il est l'autorité dans le regard. Poiret, génial. Il y a un moment où il maltraite Michel Bouquet. Je suis un fou de Jean Poiret aussi.
Et je crois que Chabrol était fan du centre de visionnage.
Oui, c'était la petite rubrique que je faisais à la fin de Canal+, et c'est vrai qu'il était venu, je l'avais invité, on avait fait, à l'époque c'est Guillaume Durand qui présentait, il a fait une spéciale émission sur le vin, où il buvait que de l'eau, et moi j'étais en duplex avec Chabrol, on a fait une spéciale eau, et on buvait que du vin.
France Inter, la bande originale, le best-of, avec Nagui.
Naïve, New Beatles, et voici avec Hello Tomorrow, la bande originale.
Once such a hard task, taking off your mask. You
take care, yes. Please try to keep it warm. It's like a blooming lotus. He told me to have to think of what else now to do.
Inter.
Ouvert la nuit, signé Édouard Baird, avec Édouard Baird, Sabrina Ouazani et Audrey Tautou. Audrey et Édouard étant nos invités, on a des excuses à présenter, Tom.
Très rapide ou pas, Nagui?
Très rapide.
Ok,
oui.
Alors désolé, Audrey Tautou, dont le talent de comédienne a été remis en question par Nagui. Hein,
ah bon,
cette scène
jamais.
Du poteau. Non, non, c'est Nagui, c'est juste qu'elle jouait bien. Désolé à Pierre Lescure aussi, qui a été accusé d'avoir gratté 3 sous à Pinault à l'époque du théâtre Marigny. Désolé, Pierrot. Désolé à Édouard Baird, qui a été secoué et bafoué dans cette émission. Audrey Tautou, c'est Thérèse Desquerou et Claude Miller. Édouard Baird, c'est le pinard et le saucisson.
Non.
Et pour terminer, désolé à la viande des Grisons, qui a été maltraitée par Nora Hamzaoui. On dit viande des Grisons, hein, comme le canton de Grison en Suisse. Oh, et puis on s'en fout, ça se bouffe. Ça se dit pas.
Le meilleur de la bande originale, c'est fini pour aujourd'hui. On revient lundi avec Simon Abkarian et Stéphane De Groot, qui seront nos invités. En attendant, c'est l'heure des carnets de campagne avec Philippe Bertrand. Passez un très bon week-end.